Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Nous lirons dans l'épître de Jude, une petite épître qui n'a qu'un seul chapitre, qui est juste avant l'Apocalypse. L'épître de Jude, versets 24 et 25. Nous lisons là la conclusion de l'épître. Il est écrit ici, « À celui qui peut vous préserver de toute chute, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître dans sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Là, c'est Jude qui termine son épître. Il n'a pas beaucoup écrit, là, Jude. Il n'a pas beaucoup écrit, mais pourtant, ce qu'il a écrit a été inspiré par le Saint-Esprit. Inspiré par le Saint-Esprit est là. Dieu nous parle à travers son serviteur ce matin. Dans ces versets de conclusion de son épître. À celui qui peut vous préserver de toute chute. Ô Seigneur, combien j'aime ce passage. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Irréprochable et dans l'allégresse. C'est lui qui va nous faire paraître devant sa gloire. Irréprochable et dans l'allégresse. Il nous préserve de toute chute et il nous fait paraître irréprochable. Est-ce des choses possibles nous préserver de toute chute? Nous avons tous un instinct naturel de conservation. Chacun d'entre nous, nous craignons de tomber. Chacun d'entre nous, nous craignons de tomber. On voit à tous les âges, le petit enfant, lorsqu'il commence à marcher, s'il tombe, il se met à pleurer. Le jeune homme, lorsqu'il marche, il veille à ce que il puisse être solidement sur ses jambes et pouvoir ainsi poursuivre sa route. Plus tard, lorsque les années ont passé, que la faiblesse a gagné le corps, on commence à trembler, c'est sur ses jambes, et le vieillard craint de tomber. La chute n'est pas agréable. La chute est toujours dangereuse. Et ça fait mal quand on tombe. Certaines personnes ne supportent pas la hauteur, le vide. Ils ont le vertige. Ils ont peur et la peur les paralyse. Chacun doit maintenir son équilibre. L'équilibre est une chose merveilleuse. L'équilibre, c'est quelque chose qui s'apprend. Le petit enfant, au début, lorsqu'il commence à marcher, il manque d'équilibre, il trébuche. Papa tient sa main, maman tient sa main, et on l'aide à marcher. Et petit à petit, il va apprendre ce que c'est que l'équilibre. Il a tout ce qu'il faut pour trouver son équilibre. Mais seulement, cette habilité de marcher avec équilibre doit se développer en lui. Un adulte, lui, il sait ce que c'est que l'équilibre. Il peut se rattraper parce qu'il a un équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu a placé là, dans notre tête, dans nos oreilles. Ce sont des petits tubes, à travers lesquels des nerfs passent. Et il y a un liquide qui est là et qui nous dit toujours quel est le centre de l'équilibre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper son équilibre? On peut développer ce sens de l'équilibre. Regardez les acrobates dans le cirque. Ils marchent sur des cordes, ils font des choses, des exploits extraordinaires, ils ont développé ce sens de l'équilibre et ils se rattrapent. Ce sens de l'équilibre nous est donné afin d'éviter de chuter, afin d'éviter de tomber. Chacun doit maintenir son équilibre, se maintenir debout et éviter de glisser. L'homme, c'est un être qui marche debout, sur deux jambes. Et pour cela, à tout moment, il exerce son équilibre. Alors que je vous parle avec tous les mouvements que je fais, à tout moment, mon équilibre est là qui me contrôle. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde glissant, terriblement glissant. Rien n'est certain de ce monde qui nous entoure. Et tout se dérobe sous nos pas. L'équilibre est difficile à garder, très difficile, au milieu de notre monde glissant et incertain. Personne dit qu'il est facile d'avoir du succès. C'est très difficile. Ce n'est pas quelque chose d'évident que le succès. Quelqu'un peut avoir de grandes connaissances et du savoir-faire et n'avoir aucun succès. On va dire pas de chance. Non, non. Ce monde est terriblement glissant. Glissant. Le succès n'est pas garanti à tout le monde. Certaines fois, des personnes qui n'ont pas beaucoup étudié ont du succès dans leur domaine et arrivent à avoir une vie plus ou moins équilibrée au point de vue économique. Tandis que d'autres, avec beaucoup de connaissances, sont là chômeurs. Le sordide, le dégradant, le sale, le glissant, la boue, nous entoure de toutes parts dans le monde dans lequel nous habitons. Nous entoure et nous entrave dans notre marche, à nous essayer de marcher dans la boue, dans la gadoue. C'est pénible. Avez-vous essayé de marcher sur un chemin glissant? Certaines fois en Europe, en hiver, il y a des pluies qui gèlent. Une pluie est subitement, alors qu'elle arrive sur le sol est complètement glacé, gelé. L'eau qui tombe sur le sol gèle presque instantanément. Eh bien, je vous assure que pour se maintenir debout, c'est quelque chose. Je me souviens. Une fois, j'étais là avec une voiture. Eh bien, c'est fini. Vous devez laisser la voiture au bord de la route. Contrôle impossible. Et quand vous sortez, comment allez-vous vous contrôler vous-même? Impossible de vous contrôler. Chaque pas, vous risquez de glisser et vous glissez effectivement. Vous glissez. Vous vous rattrapez. C'est impossible d'avancer. N'est-ce pas l'image de notre monde? Avez-vous essayé de marcher dans de la boue? J'ai grandi au Gabon et lorsqu'il y a la saison des pluies, le terrain est une terre argileuse comme du savon mouillé. Vous allez dessus et je vous assure, vous marchez avec grande précaution et la terre colle aux pieds. Et si vous êtes avec un véhicule, vous avez beau avoir double traction, vos quatre roues vont patiner et votre véhicule va aller à gauche, à droite pour avancer. C'est une grosse affaire. Une grosse affaire. Marchez dans la boue. À chaque pas, vous soulevez des kilos de terre. Et ça aspire. Et vous marchez avec difficulté. Difficulté. On sent aujourd'hui l'effet paralysant de l'immoralité qui endort la conscience des hommes, comme une boue sordide et sale, qui couvre notre monde et la conscience des hommes. Partout, ce n'est que engluement dans de l'immondice puante. Regardez ce qui se passe dans le monde qui nous entoure aujourd'hui. Le bas niveau du comportement des hommes, le bas niveau de leur langage grossier, mauvais, sordide et sale. Regardez leurs actions qui s'étalent autour de nous. Des actions sales. Voilà où nous en sommes. La boue, le terrain glissant. On n'est pas sûr d'arriver. On n'est pas sûr de ne pas tomber dans cette gadoue et cette saleté. On avance difficilement. On essaye de se maintenir debout. On n'arrive même plus à faire ce qu'il faudrait faire. L'impureté et les ordures nous envahissent. Notre environnement moral est pollué, insalubre, empoisonné, glissant, instable. Voilà ce qui se passe dans notre société aujourd'hui et dans notre société ici au Congo. Rien n'est certain et rien n'est stable. On glisse, on essaye de se rattraper. Et combien tombent au bord de la route? Trop souvent. Notre vie, nous l'avons organisée sans Dieu. Voilà le malheur.
Nous avons organisé notre vie sans Dieu. Nous voulons nous adapter au monde qui nous entoure. Et nous nous plongeons dans la saleté de ce monde. Nous nous vautrons comme des porcs dans une mare de boue puante. Je sais qu'on se lave tous les jours. Je sais qu'on se met du parfum. Je sais qu'on est propre avec des belles chemises et des belles robes. Mais cette gadoue remplit notre cœur, nos actions, nos paroles. Nous avions espéré. Nous avions espéré que notre pays s'améliorerait. Nous avions espéré que la société serait un peu meilleure qu'elle n'a été. Nous nous sommes lamentés sur les abus que nous avons connus dans les années passées. Nous nous sommes lamentés, nous avons désiré un changement de mentalité, un changement à tout point de vue. Nous avons haï la corruption et le pays s'est trouvé dans le malheur, dans la perte, dans la souffrance. Plus rien n'a marché et nous avons espéré. Mais notre espoir est déçu. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas sortir de la boue. On ne veut pas sortir de la gadoue. On ne veut pas sortir de la corruption. On ne veut pas sortir de l'infidélité. Les chrétiens encore aujourd'hui vivent dans la poubelle et ils ne veulent pas en sortir. Ils recommencent ce qu'ils avaient vomi. Ils sont comme le chien qui remange ce qu'il avait vomi, comme nous dit la parole de Dieu. Et la condition de cet homme est pire que la première. Lorsque l'esprit mauvais est sorti d'un homme, il s'en va dans les endroits pierreux et désertiques, cherchant du repos, n'en trouvant pas. Il revient à sa maison et il la trouve ornée, balayée. C'est bien cela, mais il la trouve vide. La maison n'est pas faite pour être vide. Il faut la présence de Dieu. Il faut qu'elle soit occupée. Il faut qu'elle soit habitée. Mais notre maison, nous avons voulu la balayer. Nous avons voulu qu'elle soit propre. C'est une bonne chose. Qu'elle soit organisée. C'est encore une bonne chose. Mais elle était vide. Elle était vide. Alors cet esprit est allé chercher cet esprit plus mauvais que lui. Et il est rentré dans ce cœur et dans cette vie. Et la condition de cet homme est devenue pire que la première. Est-ce le chemin que nous allons suivre dans notre société au Congo? Est-ce le chemin que nous allons suivre dans notre famille et dans nos familles et dans nos affaires et dans notre système, quel qu'il soit? Est-ce le chemin que nous allons suivre? Est-ce que notre condition sera pire que la première? Frères et sœurs, le vide doit être comblé. Et il ne peut être comblé par celui qui peut la combler. Jésus, la présence de Dieu. Quand on entend que plus que jamais on retourne à ce qu'on avait vomi, on retourne à la corruption, on retourne à la main tendue, on retourne au matabiche pour obtenir quelque chose, on retourne à la corruption, on retourne au détournement, nous disons non et nous allons le crier bien fort, car notre condition risque d'être pire que la première fois. Trop souvent, nous avons voulu faire notre vie sans Dieu. Sans Dieu. Nous avons voulu mener nos affaires sociales, nos affaires politiques, nos affaires de commerce, nos affaires de famille, nos affaires d'éducation. Nous avons voulu mener même nos distractions en excluant Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu. Ne serait-ce pas magnifique si le président du Parlement, commençant la séance, se lèvent et disent à tous ceux qui sont présents, avant de discuter, avant de parler, nous allons demander le secours de Dieu. Et que devant tous, ils disent, ô Dieu puissant, Dieu créateur, nous sommes tes créatures, mais nous sommes bien faibles, incapables de solutionner les problèmes qui nous assaillent. Nous te demandons ton secours. Apprends-nous la vérité, apprends-nous la justice, donne-nous le sens de l'équité, aide-nous à conduire ce peuple et aide-nous à être des hommes sages de ta sagesse, intelligents de ton intelligence. Amen. La séance va commencer. Malheureusement, Dieu n'est pas là et on n'en veut pas. On n'en veut pas. Il y a bien des années de cela, c'était la tradition aux États-Unis, que dans toutes les écoles, avant de commencer l'école, on priait. Et peut-être que même celui qui priait ne croyait en rien du tout. Mais c'était le règlement. Alors il priait. Bon, son cœur n'y était pas probablement, mais peu importe, Dieu était invoqué. Dieu était reconnu. Et les enfants apprenaient qu'il y avait quelque chose et une autorité au-dessus. Mais il est arrivé un moment donné où on s'est cru plus malin que les autres. Et on a dit plus de prières dans les écoles. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Vous pouvez être de n'importe quelle religion, mais toutes les religions de la terre pensent qu'il y a un Dieu. C'est pas vrai? Alors pourquoi ne pas parler de lui? Pourquoi ne pas parler de lui? Frères et sœurs, voilà pourquoi notre société est malade, est en train de s'égarer plus que jamais. Nous avons rejeté Dieu. Nous ne voulons pas le reconnaître. Quand avez-vous entendu dans un discours politique aujourd'hui, celui qui parle, demander le secours de Dieu et appeler son auditoire à regarder à Dieu pour la solution? Non! Non! Et nous avons une salade de plus en plus épaisse, gluante, gluante et qui sent tellement mauvais, de toutes sortes de partis politiques qui se bagarrent les uns les autres. Vous savez, moi je ne lis plus les journaux ici à Kinshasa, parce que je ne peux plus croire dans ce qu'ils écrivent, messieurs les journalistes. Vous cherchez le sensationnel, c'est tout ce que vous cherchez pour vendre votre bout de papier, c'est tout. Mais vous n'êtes même pas préoccupé par la vérité, même pas préoccupé par la crédibilité. N'importe quoi, sans vérifier. Allez, en gros titre, j'en ai assez. Nous marchons dans la boue, nous marchons dans la boue. C'est sordide, ça sent mauvais. Et vous voyez partout les gens qui sont tombés sur la route, le visage dans la boue. Il y en a qui ne peuvent même plus se relever. Tout est glissant. La vie de l'homme est incertaine. La vie de l'homme est bon marché. C'est peu de choses que de tuer un homme aujourd'hui. C'est si facile. On appuie sur un petit bout de fer là qu'on appelle gâchette. Et paf, un projectile s'en va avec une vitesse extraordinaire. Perce tout, détruit tout. On se sent fort avec ça. Pauvre humanité, la vie de l'homme est devenue bien bon marché et incertaine. Beaucoup perdent l'équilibre et tombent. Beaucoup ne se relèvent jamais. Frères et sœurs, qui n'a pas connu cela? Beaucoup d'entre nous ici, dans cet auditoire, sont tombés dans la boue et sont encore dans la boue. Vous êtes venus ici, mais vous êtes encore dans la boue, le nez dans la boue. Ce que vous faites, si tout le monde le savait, eh bien vous vous cacheriez. Si votre vie de cette nuit même était là sur un écran de télévision ou un écran de cinéma, vous vous fuirez loin de cette place. C'est pas vrai. La boue, glissant, une vie décente, la paix à laquelle tous aspirent, la vie décente à laquelle, de laquelle tous désirent. Et pour laquelle beaucoup ont versé leur sang, est supplantée, est dominée par la cupidité, par la haine du prochain, par l'égoïsme, par la violence, par la corruption qu'on ne veut pas laisser. On glisse, mais attention à la chute, ça va faire mal. Dieu est patient, Dieu est très patient, frères et sœurs. Dieu est très patient, il attend, il attend, il attend. Mais il est aussi un Dieu qui punit. Il nous a donné la grâce qu'il n'y ait pas de guerre et de destruction dans notre ville. Ce n'est pas un homme qui a fait cela, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais si nous continuons dans notre magouille, si nous continuons dans notre péché, dans notre corruption, si nous continuons à notre niveau personnel, au niveau de notre famille, à vivre dans la boue et dans tout ce qui est sale et sordide, je préfère ne pas être là lorsque Dieu se lèvera, parce qu'à ce moment-là, ce ne sera plus la grâce. Vous pourrez prier, mais vos prières n'atteindront pas le plafond de votre maison. Vous pourrez pleurer, mais vos larmes ne pourront briser le cœur de qui que ce soit. Dieu est patient, mais ses jugements sont justes lorsque le cœur s'endurcit. N'avons-nous pas besoin de repentance? Allons-nous nous repentir et recommencer après? Et nous repentir et recommencer encore? Et nous repentir et recommencer encore? Non! Va et ne pêche plus. Voilà ce que disait Jésus. On glisse. Chaque jour devient plus lourd à endurer que le précédent. Et il y en a beaucoup qui disent, pourquoi lutter? La vie n'a rien à nous donner. Il n'y a pas d'espoir. Et ils se laissent aller. Mais nous sommes ici ce matin pour vous dire, il y a espoir. Il y a espoir. Et c'est pour cela que nous continuons à prêcher. Jude, le disciple, a dû sentir toutes ces choses. Il a dû sentir toutes ces choses, l'incertitude, le terrain glissant, l'avenir incertain. Jude a dû percevoir toutes ces choses par l'Esprit de Dieu qui est en lui. C'est pour cela qu'en concluant son épître, il a dit, « Celui qui peut vous préserver de toute chute. » Il y en a un qui peut vous préserver de toute chute au milieu de ce terrain glissant. Le disciple a senti cela et il cherche une force pour tenir debout, une force pour tenir contre l'apostasie. Dites-moi, mes amis, un chrétien qui se dit chrétien, qui continue à être dans la corruption, dans le mensonge, dans la magouille, qui se dit chrétien, qui continue à être dans sa famille un tyran, méchant, infidèle à sa femme, infidèle à son mari, qui continue à rançonner les autres, c'est un apostat. Même s'il vient à la borne avec la Bible sous les bras et qu'il écoute le pasteur Verneau prêcher, c'est un apostat. Quand donc allez-vous réformer vos vies? Ce monde est plein de pièges. Prenez garde à vos pas. Où posez-vous vos pieds? Fortifiez votre foi. Priez avec ferveur. Demeurez dans l'amour de Dieu. Et souvenez-vous par-dessus tout que Dieu peut vous préserver de toute chute. Oui, je le crois. Dieu peut garder les siens debout. Debout. Il y en a qui étaient debout ici, mais qui sont tombés et qui sont dans la boue. Ils essayent de se laver la figure, mais ils n'arrivent pas, parce qu'à peine ils se relèvent, ils retombent encore. Dieu peut garder les siens debout, mais pour cela, mets ta main dans sa main puissante. Tu ne peux pas seul. Et mettre sa main dans sa main puissante, c'est de lui obéir. C'est d'aller où il veut que tu ailles. C'est de faire ce qu'il veut que tu fasses. C'est de parler comme il veut que tu parles. C'est de lui obéir. C'est de lui être soumis. Voilà ce que c'est que de mettre sa main dans sa main. Dieu veut faire une œuvre en nous. Il veut d'abord agir sur notre homme intérieur. Lorsque le prophète Ézéchiel était à Babylone, avec son peuple exilé en terre étrangère. Ézéchiel était découragé, désillusionné à cause de l'apathie, de l'indifférence de ceux qu'il voulait aider, des hommes de son peuple qui se laissaient aller. Nous sommes emmenés en esclave, qu'est-ce que nous pouvons faire? En esclavage, que pouvons-nous faire? Dieu nous a abandonnés. Non! Si vous êtes dans la boue, il est là pour vous relever. Et le prophète était découragé. Mais subitement, quelque chose s'est passé en lui. Tout a été soudainement changé. Et il s'est écrié dans Ézéchiel 2:2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Qu'est-ce qui te fera tenir sur tes pieds? L'Esprit de Dieu. Chaque homme a besoin de sa Pentecôte personnelle. Si le Seigneur a envoyé son esprit au jour de la Pentecôte, c'est que nous avons besoin de puissance. Il sait que nous ne pouvons pas tenir seuls. Il sait que nous avons besoin d'un compagnon pour la vie et d'un compagnon plus fort. Suivre votre route, votre course, car voici, je vous donne mon esprit. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, de les faire tenir debout. Et Paul nous parle d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il nous dit ça dans Éphésiens 3:16. Puissamment fortifié dans l'homme intérieur par son esprit. Nous devons savoir que le besoin n'est pas moindre. Le fardeau n'est pas plus léger, mais la force est plus grande lorsque nous sommes remplis de l'Esprit. Les problèmes sont les mêmes. La boue est tout aussi épaisse. Le chemin est tout aussi difficile. Les peines et les souffrances sont toujours les mêmes. Oui, mais la puissance qui est sur nous est plus grande. Alors nous pouvons continuer la route. Alors nous pouvons marcher en vainqueur. Alors la gloire de Dieu peut être manifestée en nous. Si cette force est en moi, je supporterai ce qui m'assaille. Dans Philippiens 4:13, il est dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, nous dit Jean 4:4. « Mon Sauveur me donne la force qui est nécessaire pour faire face et rester debout. » Tu resteras debout. Dieu nous donne des compagnons de route. Non seulement lui-même est un compagnon de route merveilleux, et il nous donne la main pour nous faire passer les obstacles et rester debout. Non seulement il nous donne le Saint-Esprit pour nous aider, mais encore, il nous donne nos compagnons, nos semblables. Daniel avait 3 de ses frères qui étaient avec lui. Alléluia. Paul, il est avec Silas. Il n'est pas seul. Et la présence de son frère est là à côté de lui. Et son frère est notre frère. C'est l'extension de la main de Dieu avec nous. Josué est avec Caleb. Et ensemble, ils sont forts et ils se soutiennent. Esther est avec Mardochée. Ils font équipe. Esther seule n'aurait pas pu faire grand-chose. Dans Ecclésiaste 4, 9 à 10, il est dit, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. » Merci Seigneur. Seigneur, donne-moi le compagnon dont j'ai besoin, qui est l'extension de ta main. Seigneur, donne-moi la compagne dont j'ai besoin, qui est l'extension de ta main. C'est pour cela, lorsque vous pensez au mariage, jeunes gens et jeunes filles, ne soyez pas lésés. Il faut que celui que vous mariez soit l'extension de la main de Dieu, pour vous aider à marcher au milieu des chemins glissants de ce monde. Je t'aime, tu m'aimes, ça ne suffit pas. Est-il l'extension de la main de Dieu? Parce que beaucoup n'ont pas cherché cette dimension-là. Ils ont connu la séparation, ils ont connu le divorce. Mais quand Dieu est dans l'affaire, cette affaire marche. Et si elle n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui, Dieu peut la faire marcher. Mais jamais je ne serai d'accord avec le divorce. Vous vous êtes marié avant de connaître Dieu? D'accord. Maintenant, vous êtes tous les deux gagnés au Seigneur. Encore d'accord, merci pour sa grâce. Vous vous battez toujours. Eh bien, venez au pied de la croix. Il va faire marcher ce mariage, car c'est sa volonté. Frères et sœurs, il nous donnera le compagnon et la compagne pour la route. Il vous donnera cet ami que vous avez connu, mais qui est un champion de Dieu. Il vous donnera cette personne qui est peut-être d'un autre pays, d'une autre culture, mais dans lequel il habite avec puissance et qui sera pour vous une inspiration sur le chemin que vous êtes appelé à suivre. Ne faites pas face à cette montagne seul. N'essayez pas d'y grimper seul. Elle est glissante. Ton compagnon t'aidera. Il sera l'extension de la main de Dieu en ta faveur. Tu l'aideras à certains moments. Il t'aidera à d'autres moments. Et entre autres, il y aura Dieu qui sera avec vous. Eliphaz dit à Job au chapitre 4, verset 4, « Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. » Oh, quel compliment! Quelle parole encourageante! Merci à Dieu pour de tels hommes. Je demande à Dieu d'être ce genre d'homme et d'exprimer ce qui va garder les hommes sur leurs pieds et les relever pour ceux qui sont tombés. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Combien d'hommes et de femmes ont été une force, ont été une influence pour les autres, pour ceux qui ont glissé dans la boue, dans l'immondice, de l'immoralité, de la corruption et de la déchéance morale. Ils se sont relevés sur les pieds à cause de quelqu'un. Et ils ont marché avec espérance sur une nouvelle voie à cause d'un homme ou d'une femme qui a fait la différence. Quelqu'un peut-être va marquer votre vie, l'influencer à tel point que tout va désormais changer. Votre avenir va changer comme Étienne l'a été pour Saul de Tarse. Étienne ne le savait pas. Alors qu'il était lapidé et que son visage se tournait vers le ciel, son visage paraissait comme le visage d'un ange. Il y avait un Saul de Tarse, propre juste, lié par la loi, sans amour du prochain, ne comprenant pas les choses de Dieu, quoique ayant étudié la loi toute sa vie. Étienne ne savait pas qu'à cause de son attitude et de sa vie, cet homme serait changé et deviendrait Paul, qui a été un grand gagneur d'âme. Jonathan, il a été pour David au début de sa vie et de son travail, alors qu'il était persécuté. Ruth l'a été pour Orpa, la veuve qui avait perdu son mari et ses deux fils dans une terre étrangère découragée. Elle lui a donné la main, elle l'a conduite jusqu'à Bethléem, la maison du pain, où l'héritage lui a été restitué. Ruth l'a fait, la Moabite. Tu as besoin de l'autre et l'autre a besoin de toi. C'est peut-être un homme d'une autre tribu ou d'une autre race. C'est peut-être un Tutsi ou un Hutu. C'est peut-être un Mukongo ou un Bangala. C'est peut-être un visage pâle de quelque race lointaine, que sais-je encore. Quelle importance est-ce que ça a? Ne vas-tu refuser la main de Dieu qui t'est tendue par ton prochain qui marche avec Dieu? Tu resteras debout. Tu te relèveras sur tes pieds avec l'aide de ton prochain. Beaucoup d'entre nous, nous sommes les débiteurs d'une personne sans laquelle la vie n'aurait été qu'un cauchemar, qu'une ruine, qu'un mauvais rêve. Si on n'avait pas rencontré cette personne qui a eu une influence dans notre vie, on aurait été une ruine. Mais cette personne a fait que tout a été changé. Et notre vie a pris une différente direction. Seul, je ne puis. Avec Jésus et celui qui me donne, pour m'aider, j'arriverai, malgré le terrain glissant. Ces gens ne sont pas parmi nos parents la plupart du temps. Ils sont des étrangers d'une autre nation ou d'une autre tribu. Mais pour nous, ils ont fait une différence capitale. Aux conséquences éternelles. Alléluia. Ceci à cause de ce qu'ils ont dit, ou de ce qu'ils ont fait, ou de ce qu'ils ont été devant nous. Leur vie a été pour nous comme un livre ouvert. Leur vie a été pour nous comme une prédication. Et ceci a tout changé. Alors, nous nous sommes relevés. Alors, nous nous sommes tenus debout. Et nous marchons vers le ciel. Il veut vous préserver de toute chute. Regardez dans la bonne direction. Là est une chose essentielle que de regarder dans la bonne direction. Regardez en avant et non pas derrière. Lorsqu'on monte sur une montagne abrupte, lorsque le terrain est rocailleux ou glissant, et que la pente est très dure, malheur à celui qui cherche à avancer en regardant en arrière. Bientôt, il va chuter. Bientôt, il va être blessé. Regardez où vous mettez les pieds. Beaucoup perdent pied dont il regarde à la récompense avant de la mériter. Une récompense se mérite. Et dans le fond, que méritons-nous puisque tout nous est donné par grâce? Satisfaits d'eux-mêmes, ils s'arrêtent. Ils glissent et ils tombent. Imbus de leur autorité, imbus de leur savoir, imbus de leur place, imbus d'eux-mêmes, ils se sont arrêtés. Et bientôt, ils ont le visage dans la boue. Dans 2 Corinthiens 4, 18, il est dit, « Les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. » Attachez-vous aux vraies valeurs. Il y a le passager et il y a l'éternel. Regardons en avant vers l'éternel, les yeux de la foi fixés sur l'invisible. Les hommes se moquent, peu importe. Nous savons où nous allons et les lumières de la cité céleste brillent déjà dans nos yeux. Regardons en avant et non pas en arrière. Si nous regardons en avant les yeux de la foi, nous ferons percevoir l'invisible et la gloire de Dieu. Moïse, le grand Moïse, est allé plus loin qu'aucun homme sur cette route-là. Il a parlé avec Dieu. Pendant des heures, il a parlé avec Dieu. C'était un ami de Dieu. C'est le titre qui lui est donné dans la Bible. Et son visage a brillé de la gloire de Dieu, à tel point qu'il devait le voiler, son visage. Il est monté très haut, mais Moïse, malgré cela, a aussi trébuché et glissé. Parce que malgré les révélations reçues, malgré la communion merveilleuse qu'il a eue avec Dieu, il n'était qu'un homme, harcelé qu'il a été par son peuple, critiqué et rejeté. Un jour, il a perdu patience. Moïse, le patient. Il a perdu patience, lui, le fidèle, l'obéissant, le persévérant. Exposé à des situations irritante et éprouvante, alors qu'il conduisait la nation. Il a perdu patience, c'était un homme, rien qu'un homme. Il s'est découragé, mais il a appris à regarder au-delà des difficultés. C'est ce que nous dit Hébreux 11, 27. Il est dit, il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il regarda dans la bonne direction. Oui, certaines fois, notre nature d'homme peut nous faire trébucher et peut-être tomber. Mais même si tu tombes, ne lâche pas sa main, il te relèvera. Et tiens-toi debout sur tes pieds. Élisée, lorsqu'il était pris dans la politique de son temps, et que les Syriens, la Syrie, agressaient Israël de toutes parts, Élisée, par l'Esprit de Dieu, connaissait tous les secrets des plans des Syriens. Elle les donnait au roi d'Israël, qui ainsi évitait des batailles terribles. À tel point que le roi de Syrie s'est étonné et il a dit à ses hommes, « Qui est-il celui qui va vendre tous nos plans secrets au roi d'Israël ?» Et l'un d'eux a dit, « Non, aucun d'entre nous, ne renseignons le roi d'Israël, mais sache au roi, qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Il y a un prophète en Israël et qui déclare tout au roi d'Israël de ce que nous disons dans les chambres fermées. Alors le roi de Syrie a dit, saisissez-vous de lui. Les Syriens vinrent avec force, avec leurs armées, pour le prendre. Il avait un jeune serviteur, Élisée, un jeune homme, qui commençait dans le ministère sans grande expérience, au niveau spirituel qui ne demandait qu'à croître. Mais il était humble, c'est pour cela qu'il a vu de grandes choses. Il était humble, il était prêt à apprendre au pied du vieux prophète. Et quand il a vu les armées de Syrie venir en si grand nombre, il s'est écrié avec un accent de panique, « Que ferons-nous ?» Élisée sait qu'il y a toujours du secours disponible pour ceux qui craignent l'Éternel. Mais son serviteur n'a pas la même expérience, ni la même perception. Alors il nous est dit dans 2 Rois 6, 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Sachez-le bien, mes frères. Alors tenez-vous debout et ne lâchez pas la main, car nous tenons la main du grand vainqueur. Les yeux de la foi que Dieu donne voient l'invisible. C'est ce qui s'est passé pour Étienne. Étienne, il a vu au-delà des cieux. Il a vu ce que les autres ne voyaient pas, ce qui le lapidait ne pouvait percevoir, quelque chose que les autres ne pouvaient appréhender. Il est dit dans Actes 7, 55, Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Désormais, les pierres qui lui tombent dessus ne sont plus rien. Désormais, la douleur dans son corps physique, il ne la sent même pas, car il voit ce que les autres ne peuvent voir. Il est debout. Regarde dans la bonne direction et tu ne tomberas pas. Tu verras des merveilles. Et pour conclure, j'aimerais parler du prophète Habacuc. Il était terrifié, Habacuc, terrifié par le roi Sanchérib. Sanchérib qui venait, le tyran, avec des troupes, et comme un rouleau compresseur, était en train d'écraser toutes les nations, et il s'avançait du côté du peuple élu pour le détruire. Il était terrifié et découragé, mais ses yeux s'ouvrirent subitement à la vision de la foi, qui lui firent retrouver confiance et foi. Et il s'écria dans Habacuc, chapitre 3, versets 17 et 19 à 19. Il s'est écrié en disant, « Le figuier ne fleurira plus, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Pourquoi ? À cause de la guerre, à cause des pillards, à cause de la destruction. Toutefois, dit-il, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur des lieux élevés. Alléluia. Ces choses se passent à ce niveau, très bas. La guerre, le pillage, la maladie, la mort. Mais moi, il me met à un niveau bien plus élevé. Et de là-haut, je vois et je me réjouis, car mon Dieu tient ma main. Il tient ma main. Oui, Jésus tient ma main. Le chemin est long. Il est long, plein d'embûches, plein de boue. Mais Jésus tient ma main. Persévérons, mes frères. Voilà la foi qui a fermé les pas et vous tient debout malgré les circonstances. Non, tu ne tomberas pas, car le Dieu fort est à tes côtés. Et si tu trébuches, il te relèvera, car il est ton Dieu et il t'aime. Regarde dans la bonne direction. Il te préservera, il te relèvera, il te gardera de toute chute. Seigneur, le chemin est long, mais tu es bon car tu nous tiens par la main. Aide-nous à garder cette main, Seigneur, à ne pas la mépriser, à ne pas la rejeter. Mais aide-nous, Seigneur, à la garder ferme et à marcher. Seigneur, si nous trébuchons, tu nous empêches de tomber.